20h, 21h, on refait le match.
Éric Silvestro sur RTL.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs pour refaire le match jusqu'à 21h le lundi. C'est priorité bien sûr à la Ligue 1, la deuxième journée avec tous nos requins. Tiens, on en parlait dans le flash tout à l'heure, ou des dauphins. Nous verrons nos débatteurs du soir si ce sont des requins, des jeunes loups ou pas, si la critique sera facile. Et il y en a des choses à dire sur Marseille, notamment les voix de la discorde. Personne ne parle dans le même sens du côté de l'Olympique de Marseille. Et rien ne va plus. Deuxième défaite, les joueurs qui s'en vont, personne qui arrive. Que se passe-t-il à Marseille? Lyon et Bordeaux, ça va pas vraiment mieux non plus, avec beaucoup de blessés en plus et peu de mercredi. Cato aussi. Qu'arrive-t-il à nos grands clubs français? On va en parler, bien sûr, ce soir. Quand le tube de l'été, vainqueur de l'OM et de Lyon, les deux favoris du championnat, les Canets peuvent-ils durer comme ça, nous faire plaisir avec un jeu offensif? Le PSG, en revanche, tout va bien. Solide et solidaire du côté de Lille avec ce match nul 0-0. Cette équipe est-elle équilibrée, elle aussi, pour durer durant la saison? Et puis, c'était la première des terrains synthétiques ce week-end en Ligue 1. Deux défaites pour les deux équipes à domicile, pour Nancy face à Rennes et pour Lorient face à Nice. Unanimité contre de la part des joueurs. Les débuts des synthétiques en France, c'est vraiment pas fantastique. On parlera C1 également, le tour préliminaire demain d'Auxerre au Zénith Saint-Pétersbourg. Les Auxerrois bluffent-ils? Ils semblent ne pas y croire une seule seconde à ce tour préliminaire. Pourquoi? Est-ce une spécialité auxerroise? On en parlera également. Et puis demain, 5 joueurs ont rendez-vous devant la commission de discipline de la Fédération française. Patrice Evra, Eric Abidal, Franck Ribéry, Jérémy Toulalan et Nicolas Nelka. Quelles sanctions? On sait déjà que sans doute deux d'entre eux ne seront pas là. Franck Ribéry, c'est sûr, le Bayern ne l'a pas libéré. Et Nicolas Anelka ne devrait pas non plus faire le déplacement. Pour débattre avec vous, chers auditeurs, jusqu'à 21h, notre team du soir, tous les jeunes loups de l'été, Dave Apadou de SoFoot France Foot. Salut Dave.
Salut, salut à tous.
On va se régaler. Nicolas Villas de ma chaîne Sport.
Salut.
En portugais?
Hola, boa noite, boa tarde, comme tu veux.
J'adore, je m'en lasse pas, notre portugais de service. Alors, le jeu de l'émission.
C'est vrai, c'est le truc, c'est un problème, tu m'appelles.
Vous savez que dans ma voix, c'est un compliment, mon cher Nicolas.
Ah non, non, mais je rigole. Hein.
Alors, la semaine dernière, vous avez glissé 19 fois Porto dans l'émission.
Non, j'ai dit Portugal. Peut-être.
Aujourd'hui, non, Porto.
Aujourd'hui, c'est Benfica,
Porto.
C'est ça.
Aujourd'hui, c'est Benfica.
Ah, bah, si tu veux, en plus, avec la défaite d'hier, il y a de quoi dire.
Attention, Cyprien Sini de la maison RTL. Bonsoir, Cyprien.
Bonsoir, Eric.
Tant que Marseille a des problèmes, on invite Cyprien Sini. Au moins, on est tranquille, on
va venir longtemps.
J'espère que t'as un CDI parce que
après le portugais de service, le marseillais de service, c'est comme ça.
On attend,
j'attends de savoir, j'attends la suite.
Et Nathan Francky qui est également avec nous de l'équipe TV. Salut Nathan.
Salut Eric, salut à tous.
Voilà messieurs, beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup. Alors on commence tout de suite. Ah là 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 là, portugais et marseillais. En plus ils sont en face. Je sais pas lequel des deux tire le premier. Allez, on va demander à Cyprien Sini, normal, puisqu'on
voulait parler de l'OM.
Bah, on va commencer par l'OM. Comme par hasard.
Ça alors.
Vous voulez qu'on commence par, je sais pas, Nancy peut-être.
Si vous voulez, non, mais ça va rajouter un synthétique.
On va commencer par l'OM. Vous dormez mal en ce moment, Cyprien Sini?
Bah, c'est surtout Jean-Claude Dacier, Didier Deschamps, José Anigo qui dorment mal. Hein. Moi, ça va très bien, mais bon, non, c'est une catastrophe ce qui se passe à l'OM.
Très bien.
Mais non, mais. Enfin. On le dit souvent, mais depuis le temps que, enfin, on le sentait depuis la fin de saison dernière, avant le titre. Voilà, il y avait un projet commun, c'était de finir cette saison et d'avoir un titre. Deschamps a réussi à remobiliser tout le monde. Ensuite, les problèmes n'ont pas été gérés en amont. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune autorité de ce club sur ses joueurs.
Alors l'avantage, c'est qu'un jour, il y a une interview de Ben Arfa, le lendemain, il y a celle de Dacier, le surlendemain, il y a celle de Deschamps, ouais, enfin, il n'y a que José Anigo qui n'a pas encore parlé.
Deschamps qui remobilise tout le monde, les déclarations la semaine dernière, après le match, après la défaite face à Caen, je ne pense pas que ça ait remobilisé quoi que ce soit.
D'ailleurs, la fin de saison dernière.
On le disait aujourd'hui, là déjà, non. Les déclarations qu'il y a eu la semaine dernière, elles ont été lourdes de conséquences, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une brèche, il s'est glissé dedans, et au final, bah, Ben Arfa s'est foutu dedans aussi, et puis là, c'est porte ouverte, hein, c'est open bar.
Nathan Francky, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde ouvre le parapluie, c'est clair. Chacun va de sa petite interview, c'est pas ma faute.
Vous disiez, Eric, ça va du jour au lendemain, des fois c'est plusieurs fois dans la même journée.
Oui, c'est vrai.
Ça commence le matin par une interview dans l'équipe, ça répond à la télé, à la radio, coup de téléphone. Mais là, ce qui est sûr, c'est que Didier Deschamps, lui, il est totalement impuissant, il est consterné par ce qui se passe. On le pensait, réussi à remobiliser tout le monde, tous ceux qui voulaient partir. Finalement, Niang part et au plus mauvais moment. Lui, il voulait associer un gros calibre européen à Mamadou Niang. Résultat, ben, il n'a aucun des deux. Il reste 15 jours de mercato. On a pu entendre hier le président Dacier dire non, moi je suis confiant, il y a plusieurs pistes, on verra, on a encore du temps pour se retourner. Maintenant, tout le monde sait que les entraîneurs aiment avoir une équipe le plus tôt possible pour pouvoir la préparer. Et là, il y a toute une attaque à rebâtir.
Alors, l'évolution du dossier, quand même, messieurs, c'est que hier, Jean-Claude Dacier, sur notre antenne, dans l'émission de Pascal Pro, entre 20h30 et 23h, soir de Ligue 1, a quand même clairement ouvert la porte au départ d'Atem Ben Arfa. Il l'a pas dit comme ça, mais on sent bien qu'il voit qu'il n'y a pas d'autre solution. Niang s'est déjà fait alors qu'il ne devait pas partir non plus. Dans 5 jours, l'OM n'a plus personne devant. Samassa a signé officiellement aujourd'hui à Valenciennes 3 ans.
C'est le problème de toute façon d'un club où tout le monde ne parle pas de la même voix. C'est-à-dire que si Deschamps avait été suivi quand il a fermé la porte à Niang dès le départ en disant moi j'ai besoin de toi, je compte sur toi, et que tout le club dans son ensemble avait suivi, moi je pense que Niang il sera encore Marseillais. Maintenant,
même pas sûr, parce que quand Cyprien parlait d'anticipation, ça fait pas 2 mois qu'on sait que Mamadou Niang veut partir. Je sais pas si vous avez bien vu les matchs de l'OM de février à mai. Mais Mamadou Niang, c'était pas le même joueur. C'est un joueur capricieux qui voulait jouer. Alors moi, grand respect à Mamadou Niang pour tout ce qu'il a fait et en championnat de France et à l'Olympique de Marseille. C'était le joueur le plus important de l'OM. Sous l'ère Ribéry, c'était Niang le joueur le plus important. Sous l'ère Nasri, c'était Niang le joueur le plus important. Mais là, depuis 5 mois, il voulait jouer dans l'axe.
Quand un ballon
arrivait pas comme il fallait, on le voyait se comporter un petit peu comme le faisait Cissé à l'époque. Alors que Cissé, ça passait pas du tout. Mais quand c'était capitaine Mamadou, il fallait tout accepter.
Ouais, il a fini meilleur buteur.
En marquant combien de buts sur les 5 derniers mois de compétition, messieurs? Très peu.
Là je suis d'accord avec toi.
Ça veut dire qu'on savait qu'il voulait partir.
On en a parlé déjà, on l'avait dit déjà la semaine dernière.
Mais que
le club est très mal géré l'intersaison, tu vois. On en avait parlé déjà la semaine dernière.
Mais l'anticipation,
on en parle tout le temps, mais je suis d'accord.
C'est pas le déclarer intransférable jusqu'à la mi-août.
Ça renvoie au modèle lyonnais, c'est-à-dire qu'eux, quand ils étaient champions, ils pérennisaient le truc, ou alors ils vendaient, mais ils avaient déjà prévu le coup en avance.
Évidemment.
Là, Marseille, ils font preuve d'amateurisme, mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est le problème de ce club où il n'y a pas une unité de pensée. C'est-à-dire que l'un dit droite, l'autre dit gauche. Anigo qui ouvre la porte derrière alors que Deschamps elle est fermée. Évidemment, les joueurs. Alors Niang est parti, mais Ben Arfa a bien vu que tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde.
Mais il n'a rien vu du tout. Lui, il a vu que son cas à lui, en dehors du cas Mamadou Niang. Lui, ce qu'il a vu, c'est que depuis la fin du dernier championnat, il a été mis tout de suite sur la liste des transferts.
Non, mais le vrai problème, c'est le manque d'autorité au sein de l'OM. C'est pas le problème d'anticiper ou de bande sortie. Niang, on savait qu'il voulait partir. Bon, le problème, c'est que Niang, il fallait lui donner une date butoir. Soit tu pars avant telle date, tu pars pas une semaine avant le début du championnat. Et à ce moment-là, le club manque d'autorité.
L'offre est arrivée très tard.
Niang de trouver une offre avant la date butoir. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de date butoir.
Il a été prolongé il y a un an déjà.
320 000 euros, je crois, en 2014.
Il avait été prolongé. Quand tu le prolonges, tu sais déjà, tu pars sur une idée. Tu dis, ou tu restes pour un an ou 2 ans. En l'occurrence, il avait signé, je crois, jusqu'en 2014. Logiquement, la fin de saison dernière, comme le disait Nathan tout à l'heure, c'est soit tu parles avec lui, tu lui dis, écoute, on te donne effectivement, comme vient de le dire Cyprien, tu restes jusqu'à telle date, s'il n'y a pas d'offre, tu restes. Après, les 10 millions, ils tombent avant, c'est pas le problème. Quand t'es entraîneur, toi, t'as besoin d'avoir une équipe, tu sais avec qui tu pars.
Mais alors, le cas Niang, on va dire.
Non, Eric, tu peux pas, parce que ce qui est quand même grave dans cette histoire, c'est que Deschamps, il a demandé qu'une seule chose, c'est un attaquant supplémentaire. Au final, il perd son seul buteur, il se retrouve avec personne et il va perdre en plus un autre joueur qui est Atem Ben Arfa. Enfin, je sais pas si t'imagines le truc. C'est-à-dire qu'au lieu de recruter, ils ont non seulement pas anticipé l'attaquant que voulait Didier Deschamps, et en plus, ils perdent un attaquant qui était pas prévu.
Et en ce qui concerne Ben Arfa, ça va pas rapporter de liquidité, puisque a priori, on part sur un prêt.
C'est ça que l'OM essaye de récupérer à l'arrache, c'est justement de dire, ok, de toute façon, on l'a perdu, mais si on le perd, autant qu'on le perde avec un peu de pognon, avec un autre club que Newcastle, puisque Newcastle ne veut qu'un prêt.
Aux dernières informations de Jean-Louis Pacul à Marseille que j'ai eu avant l'émission, il veut aller à Newcastle. C'est pas négociable. Donc en fait, Jean-Claude Dacier va essayer de récupérer.
Ouais, il veut aller à Newcastle, mais si demain matin Manchester ou Tottenham,
il veut que l'Angleterre. C'est-à-dire que tu lui mets Offenheim, il ira pas.
Non, mais non seulement ils en veulent pas, avec le spectacle qu'ils donnent en ce moment à Tem Ben Arfa, ça va pas inciter les clubs à venir le chercher.
Contre pub, un petit peu.
Ouais, enfin, ceci étant, bon, on lui tire dessus. C'est vrai que.
Non, mais
c'est pas ça. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une question de timing et tout. C'est-à-dire que cette histoire Ben Arfa, ça arrive après la grève du bus, etc., après une image déplorable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais pas l'amalgame. Je dis juste que effectivement, ça arrive à un mauvais moment. Maintenant, Ben Arfa, sur le fond, il a pas tort.
Mais il a complètement raison. Voilà. C'est même pas qu'il a pas tort.
Non, mais c'est ça. Non, mais
on le pousse à partir depuis la fin du dernier mercato.
On va le traiter d'enfant gâté. Tout le monde va le traiter d'enfant gâté, alors que non, c'est pas le cas.
RTL, il est 20h12.
Eric Silvestro. On refait le match sur RTL.
Ah, Tem Ben Arfa, il n'a pas fini de faire parler de lui. Moi, je lis ça à Didier Deschamps quand même, parce que c'est clair qu'on se focalise sur Tem Ben Arfa, son mauvais caractère, etc. Là, je rejoins quand même un peu Nathan. Pour une fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas spécialement responsable de la situation. Et autant Deschamps n'a pas été écouté sur le cas Niang, autant sur le cas Ben Arfa. Aujourd'hui, quand on voit qu'il essaie de se raccrocher aux branches, qu'il dit qu'il a beaucoup aidé Tem, c'est sûrement vrai. Il lui a donné des conseils, il lui a parlé pendant les deux saisons où il était avec lui. Ok, sauf que Didier Deschamps est la personne qui sportivement a clairement indiqué à son milieu de terrain qu'il ne comptait pas sur lui. Donc aujourd'hui, c'est un peu facile aussi venir dire oui, mais moi je l'ai aidé, oui, mais moi j'avais pas perdu Niang, oui, mais si, oui, mais là. Non, mais attends, tu peux pas dire à un mec, je compte pas sur toi.
Tu sais ce que c'est le problème aussi dans cette histoire. Au final, c'est que quand on voit déjà Deschamps qui fait les déclarations qu'il fait après la défaite à Caen, où il dit en gros, j'ai besoin de renfort. Là déjà, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il a des soucis avec ses dirigeants. Il lave son linge sale, t'as vu, c'est dur à dire, devant tout le monde. Chose qu'il a pas forcément à faire. Il a un souci, il en parle avec ses dirigeants. Le gros souci, c'est que Ben Arfa, il a un truc à dire. Il va pas en parler avec Didier Deschamps, avec ses dirigeants. Il appelle la presse et il parle. Didier Deschamps, il a un problème à régler avec Ben Arfa, avec ce qu'il a dit. Il va pas aller le voir et l'appeler. Il va appeler la presse et il va en parler là aussi. Jean-Claude Dacier, hier, il balance devant la presse. De toute façon, si Ben Arfa a un truc à dire, numéro de téléphone, il m'appelle. Mais c'est quoi cette gestion?
J'ai passé 40 secondes dans son bureau.
Tu gères pas un club comme ça, tu gères pas un club par presse interposée, tu gères pas un club en disant journaliste. Si un de mes joueurs a envie de me parler, il a le numéro de téléphone.
Alors, Deschamps l'a croisé, lui a proposé à Ben Arfa de parler. Ben Arfa, peut-être
en croisant tes joueurs que tu gères un cas.
Peut-être
à juste raison. Dans ton bureau, tu es entraîneur, tu convoques
Ben Arfa. C'est ce qu'a fait Dacier, il a convoqué Ben Arfa en son bureau, il est resté 40 secondes, il est parti.
Et pour ajouter un peu de psychodrame à cette histoire et un peu d'huile sur le feu, nous avons Pape Diouf qui sort de la boîte et qui dit moi, sous ma présidence, aucun joueur ne se serait permis de faire ça. Non, mais j'aime bien.
Non, mais attendez, souvenez-vous, Franck Ribéry, qui est aux 20h de TF1, c'est pas n'importe quoi, aux 20h de TF1, qui vous dit face caméra, je pars à Lyon, je veux plus jouer à l'OM. Résultat, il est resté à l'OM.
Donc, Pape Diouf a raison.
Et quand Pape Diouf parlait d'anticiper, tout le monde apprend le départ de Éric Guéret. Catastrophe à Marseille. Quelques jours après, Didier Deschamps débarque. Incendie éteint.
Pour le coup, Diouf, là, les faits plaident en sa faveur.
Bon, alors, est-ce que c'est plutôt en coulisses qu'il faut s'agiter très vite cette semaine, ou est-ce que d'abord, on laisse un peu les coulisses, il y a jusqu'au 31 août, ne pas faire n'importe quoi dans la précipitation, et se concentrer sur le terrain, et notamment ce match contre Lorient, parce que deux défaites, ok, c'est pas grave en début de saison, du moins pas trop grave, faudrait pas que ça dure, sportivement parlant.
C'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que hier, on a pu entendre la stat, depuis 60 ans, aucun champion n'avait eu deux premiers matchs. Merci. Ça aussi, c'est difficile. Non, même pas. En tout cas, mais non, mais ce qu'il faut dire, c'est que à qui profite le crime, je vais y arriver, à personne. Puisque Lyon n'y arrive pas, Bordeaux
n'y arrive
pas. C'est qu'à un moment donné, Marseille, ça va pas. La crise, elle est évidemment sportive, elle est évidemment coulisse, elle concerne évidemment le mercato. Mais bon, voilà, personne n'en profite.
Là où tu t'inquiètes en plus à Marseille,
c'est pas dramatique.
Là où tu t'inquiètes en plus à Marseille, c'est que non seulement t'as le niveau comptable, c'est pas tip top. Bah, heureusement, les autres sont pas là. Mais c'est quand tu regardes l'équipe aussi, parce que tu dis ils ont quand même une Ligue des Champions à jouer. Mais il y a qui sur le banc aujourd'hui? C'est quoi l'équipe de l'Olympique de Marseille?
Il y a qui titulaire aussi déjà quand tu vois la défense centrale?
Ils viennent de perdre le meilleur buteur de Ligue 1, le meilleur buteur du championnat de l'année dernière. Ils ont recruté personne alors qu'ils voulaient un joueur en supplément. Donc non seulement au final il en voulait deux, il se retrouve avec zéro.
Il lui faut trois joueurs maintenant. Un milieu d'EF, tu veux toujours, et deux attaquants.
Sur l'équipe qui jouait à Valenciennes, t'as quand même Diawara qui s'est blessé, t'as Mbia qui est blessé et t'as Brandao qui est suspendu. Ça fait déjà trois joueurs de l'équipe type qui vont revenir.
Premier match d'Ansu qui était un peu court, Ndiaye, on a bien senti que pour jouer une saison dans l'axe,
il jouera pas une saison dans l'axe. Ndiaye, c'était
Aspilicueta, il faut lui laisser un peu de temps, mais pour l'instant il se prend vent sur vent sur son côté.
Laissons-lui du temps.
Oui, non, mais exactement, laissons-lui du temps. C'est sûrement un très bon joueur.
C'est facile de tirer.
Laissons-lui du temps.
Non, mais disons qu'il n'est pas opérationnel, t'as quand même une Ligue des Champions qui arrive bientôt.
Non, mais d'ici septembre, ça ira, il reste encore 15 jours.
Qui est opérationnel à l'OM aujourd'hui?
Non, mais même pas qu'à l'OM d'ailleurs, si tu regardes un point de vue général.
Non, mais évidemment, mais à l'OM, dire Aspi, il a coûté cher, il a coûté 7 millions. On le regarde parce que c'est la seule recrue de l'OM aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me choque. À la même époque, l'an dernier, l'OM avait recruté combien de joueurs? 10. Pour combien? Plus de 40 millions d'euros.
Voilà, et l'autre jour, on lui tirait dessus aussi.
C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a trois joueurs qui ont déjà débarqué à l'OM, dont un joueur d'envergure comme Lucho l'année dernière, Aspi, là, bon, voilà, on serait plus tolérant. On dirait, bon, bah voilà, c'est vrai,
La différence avec Aspi, enfin, Lucho lui remplaçait personne. C'est-à-dire que Lucho, c'était une valeur ajoutée, supposée, dans un rôle qui manquait à l'OM. Aspi, il arrive à la place de Bonnard, alors que Bonnard était très bon. Non mais ils ont. Tu vois, alors évidemment, Bonnard, il a refusé la.
Disons qu'ils auraient pu garder les 7 millions s'ils en avaient pas beaucoup. Exactement. Pour autre chose, parce que Bonnard. Oui,
bon, voilà. C'est ça. Il y a peut-être moyen de renégocier un peu le contrat de Bonnard, lui faire une
promesse. Il a été renégocié, mais c'est lui qui a été gourmand.
Peut-être qu'il a été gourmand, mais là, à l'arrivée, ça fait 7 millions.
Il en trouvera un avant le 31.
Mais ça fait 7 millions pour Aspi. Plus, à mon avis, il se nourrit pas de cacahuètes. Tu vois ce que je veux dire? Il a un salaire, il a tout ça. C'est pas forcément une excellente affaire immédiate.
Alors, au niveau des recrues potentielles pour l'Olympique de Marseille, il y a les mêmes noms qui reviennent toujours. Enfin, il y en a un qui a été définitivement rayé, hein, c'est Luis Fabiano.
Okay. Avec les noms, hein.
Maintenant, quelques petits noms surgissent à nouveau. Cyprien Sini. Ah, il faut qu'on ait un petit peu de grain à moudre. Non, il faut qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent.
Imaginez. Pour les recruteurs, les vendeurs de joueurs, Marseille est une proie mais hallucinante, idéale. L'Europe entière sait qu'ils sont aux abois, qu'ils ont absolument besoin de deux attaquants et d'un milieu défensif et qu'ils n'ont pas un rond. Ils vont se faire racketter quoi qu'il arrive, ils sont perdants quoi qu'il arrive.
C'est toi qui écris le discours de Dacier alors.
Mais non.
Avec
Laurent Sonnage. Il a pas tort. Ils sont. Attendez, c'est une proie, ils sont ridicules. C'est-à-dire que là,
ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes non plus.
Ça fait deux mois qu'ils cherchent un attaquant. En 15 jours, il va falloir qu'ils résolvent le problème qu'ils ont.
Mais ça fait déjà 6 mois qu'ils auraient dû l'avoir. Le papier, ça devrait être signé.
Ils sont très très mal. Ils sont très très mal. Je sais pas comment ils vont faire. Ils sont très très mal.
Alors qui, messieurs?
Eh ben alors, du coup, non, on parle plus sur les Berbatov et compagnie.
Non, c'était avant ça, Baptiste Toutain.
Non, mais voilà. Alors là, effectivement, on se replie.
Mais c'est toujours très comique.
Côté marseillais, on se replierait plutôt sur une piste française. Gamero.
Attendez, je croyais qu'il en voulait pas d'idée Deschamps des pistes françaises.
Mais là, Deschamps, il a dit qu'il va s'attaquer au plan W là. Il a déclaré récemment. Donc voilà, il est en train de faire ce qu'il peut.
Ça sympa pour le joueur qui va arriver en confiance.
C'est ça. C'est terrible. La situation est
catastrophique. Ça rappelle les fonds de tiroir de Domenech.
Ça va être très très compliqué pour l'OM. Gamero, apparemment, Deschamps n'en veut pas du tout.
Mais ça, c'est quand même incroyable. On peut en parler deux secondes. Après, je dis pas que Gamero est le meilleur attaquant du monde. Mais quand t'as un mec comme Deschamps, avec la carrière qu'il a, qui te dit que Gamero n'a pas le niveau.
Alors Anigo, en fait, il dit pas que Gamero
pour jouer la Ligue des Champions.
C'est ça. Peut-il franchir le pas? C'est sa question. Maintenant, quand on voit un petit peu l'entraîneur et la manière dont il fait jouer son équipe, il aime quoi, Didier Deschamps?
Il aime les athlètes,
la taille, les muscles. Et il correspond pas du tout à ce schéma-là.
Loïc Rémy un peu plus. Sauf que Loïc Rémy, c'est un peu plus cher. Et surtout, il y a Lyon qui peut toujours dire, et Lyon a quand même un peu plus de liquidité de Marseille, même s'il n'y en a pas des masses non plus.
Un peu plus, parce que c'est à peine plus.
Lyon a toujours la priorité.
Non, mais on n'est pas dans la cour d'école. Lyon va pas mettre 20 millions pour.
Lyon
on va en reparler tout à l'heure, mais ils ont trois blessés, notamment au niveau du milieu de terrain et dans le secteur défensif.
L'attaque, c'est pas la priorité.
S'ils ont de l'argent à mettre, c'est pas en attaque qu'ils vont la mettre. Sur
enfin, Jean-Michel Aulas, il peut.
Mais c'est fini ce temps-là. Mais attends, c'est fini où ils étaient. Les mecs pour pas que les autres les aient, c'est fini ce temps-là.
Ensuite, l'avantage de Rémy, c'est qu'il peut jouer à gauche également, pallier le départ de Ben Arfa, ou à droite, enfin, mettre Valbuena à gauche et mettre Rémy à droite.
Oui, mais ça peut permuter.
Tu peux faire permuter et il te manque une pointe, mais t'as Brandao pour dépanner. Maintenant.
Didier Deschamps a déclaré encore ce matin, Didier Deschamps a déclaré, c'est quand Brandao n'est pas là. Que vous voyez l'importance qu'il a dans le système.
Maintenant, il y a deux solutions.
Non, mais il pèse sur une défense.
Ah oui, il pèse, mais pas pour mettre des buts, c'est pas lui.
Il en a mis 8 l'année dernière.
Avec un petit Gamero qui lui tourne autour.
Il a mis autant de buts pendant toute la saison dernière que lors de ses 6 premiers mois à l'OM. Quand Brandao finit ailier gauche à l'OM, ça me fait rire.
Faut pas s'étonner aussi.
Quand il joue dans l'axe, il met des coups de coude, il met des coups de tête au ballon le plus souvent, mais des fois aussi au défenseur.
Il n'a pas touché.
Mais il n'avait pas touché sur cette faute-là. Au final de la Coupe de la Ligue, contre Bordeaux.
Il apporte beaucoup, mais est-ce que Deschamps, à la base, comptait sur lui?
Non, clairement. Le problème, c'est que Deschamps comptait pas sur Ben Arfa, pas sur Brandao, pas sur les trois quarts des mecs.
Et les mecs deviennent sous contrat à Marseille aujourd'hui est un joueur sur lequel ne comptait pas l'entraîneur, il faut le dire.
Il comptait que sur Mamadou Niang, il voulait changer tout le reste et c'est le seul qui est parti.
Alors la seule solution. La solution moins mauvaise pour le. Alors, je donne pas des conseils à Jean-Claude Dacier, il fait ça très
un
bien.
Un peu quand même. Hein.
Mais ouais, je réfléchis. Ça serait d'inclure.
Pas trop quand même.
D'inclure Ben Arfa dans un transfert de joueurs. Par exemple, je sais pas moi, aller chercher un Huntelaar au Milan AC, j'en sais rien. En proposant Ben Arfa plus de l'argent pour Huntelaar, ça fait que vous en sortiez pour 8 millions d'euros.
Et là, tu travailles.
Un peu d'argent pour acheter un autre attaquant et un milieu dépensier.
Là, tu te réveilles là, par contre.
Pour ne rien cacher à nos auditeurs, il faut savoir que Cyprien Sini, l'après-midi, fait des petits calculs.
Mais il joue à Football Manager, surtout, c'est ça.
Et tu l'as vu dans ton jeu. En tout cas, l'OM est dans la nasse pour l'instant. L'OM doit battre Lorient la semaine prochaine pour au moins se donner un petit peu d'air sur le plan sportif parce que ça a donc très très mal démarré pour l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, les supporters ne voient rien venir. Vont-ils être patients? Pour l'instant, oui. Mais combien de temps ça va durer?
RTL.
On refait le match.
On refait le match.
Éric Silvestro jusqu'à 21h sur RTL.
20h23 à l'écoute d'RTL, première radio de France. On refait le match avec Dave Apadou de SoFoot France Foot, avec Nicolas Villas de ma chaîne Sport, avec Nathan Francky de l'équipe TV et avec Cyprien Sini d'RTL. Messieurs, je vous propose qu'on attaque les dossiers Lyon et Bordeaux parce que l'OM ne va pas bien du tout, mais c'est guère mieux du côté de Bordeaux, c'est même carrément pareil. Allez, Lyon, on va dire un tout petit peu mieux parce qu'ils ont pris un point lors de la première journée, mais les problèmes s'accumulent également. Alors que se passe-t-il chez les gros? Alors est-ce que c'est toujours pareil? On se prépare pour être au top en septembre.
Ouais, mais il y a un mercato qui s'est bien passé pour aucun des gros, et en plus
une seule recrue de chaque côté.
Et en plus il y a la préparation.
Ouais, mais je sais pas si Lyon avait pour ambition de beaucoup acheter.
Non, mais pas
ils avaient dépensé comme des fous au dernier mercato. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils avaient recruté Lissandro et compagnie. Donc là, c'était la stabilité plus on renforce et brillant pour Gauvou. C'était plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ils ont laissé partir pas mal de joueurs comme Bodmer, comme Boumson, comme Claire, et que Gauvou était remplacé, disons, par Brillant, voilà, ouais. Disons. Mais les trois autres, il n'y a eu aucune arrivée, et puis il y a surtout un paquet de blessés maintenant. Donc là, ça devient très compliqué.
Alors, dernier en date, Chris et Bastos qui se sont blessés.
Chris, Bastos, Ederson.
C'est
la sodade. Hein.
Alors, les trois aux ischio-jambiers, les trois à la cuisse. Alors, j'ai l'impression que la loi des séries poursuit Lyon. Parce que souvenez-vous,
comme l'année dernière,
il y a trois ans, c'était les genoux avec Robert Duverne. L'année dernière, c'était les adducteurs avec les fameuses lamelles. Et maintenant, c'est les cuisses. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, c'est les mêmes blessures.
Ouais, c'est le hasard. Faut pas...
Et trois Brésiliens. Trois cuisses, trois Brésiliens.
Ce qui est bizarre, c'est qu'Ederson, c'était avec la Célessa.
Il y a un sort qui a été jeté, tu crois? C'est ça? Il y a une coupée voodoo.
C'est quand même incroyable. C'est à chaque fois une série.
C'est étonnant. Ouais.
Depuis plusieurs années.
Alors, Ederson, c'est 6 mois. Bastos, c'est 1 mois. Et
Chris, c'est 1 mois.
On précise quand même, parce qu'on a posé la question. On s'est dit, tiens, le préparateur physique, c'est Vincent Espy depuis 2 ans. Donc, les lamelles et les cuisses, c'est pour lui. Sauf que les trois Brésiliens n'ont pas eu la même préparation. Ils sont pas arrivés en même temps. Les adducteurs, c'est un peu particulier. Et quand ce qui concerne Robert Duverne pour les genoux, c'était des blessures très différentes, dans des situations très différentes. Mais quand même,
il y avait des choses. Et puis Bastos, il a joué le mondial. Enfin, tu vois, il a eu une saison qui a été longue quand même. Il est revenu beaucoup plus tard, c'est comme tu viens de le dire. Enfin, tu vois, il faut pas tout mettre sur le dos non plus.
Ederson,
c'était en CLSAO. Il était certainement tendu comme un.
Non, mais ça va. T'as vu le premier ballon.
Saint-Etienne a eu 15 joueurs blessés 15 fois l'année dernière. Il n'y en a aucun qui avait joué la Coupe du Monde à un moment donné. La loi des séries touche les grands clubs et les petits clubs.
Mais il y a quand même des joueurs. Quand tu as Makoun, Pjanic, Kallström, Gonalon, ce sont des bons joueurs, mais de là à jouer titulaire au milieu de terrain à Lyon toute la saison, c'est pas un peu limite en termes de qualité.
Ah non, mais non, oublie le Lyon de 2004, 2005.
C'est pas un problème.
Nicolas Villas.
Et si un Juninho Diarra, c'est fini.
Voilà, c'est pas tant un problème de qualité. Je pense que Claude Puel, il a pas voulu recruter parce qu'il a pas voulu recruter. Et aujourd'hui, il le veut toujours pas d'ailleurs. Alors, quoique maintenant, avec les blessures, je sais pas s'il va revenir sur cette décision. Lacombe, lui, voulait recruter. Mais c'est vrai que lui, je pense qu'il avait plus dans l'esprit de lancer les jeunes du centre de formation de l'OL. Parce qu'on sait qu'il y a des très bons. Moi, je pense au frère Guézal, au petit Guézal qui est là. T'as Taffer qui attend son tour aussi. T'as le fils Puel. Maintenant, il paraît aussi qu'il est à Lyon. Enfin, t'as plein de petits joueurs comme ça, plutôt sympas, qu'il a essayé de lancer. Le problème,
c'est pas dans ces clubs-là.
On est d'accord, j'allais venir. Le problème, c'est que t'as la Ligue des Champions et que Pjanic, meneur de jeu à l'OL en Ligue des Champions, tu vois, je l'imagine. Enfin, disons que c'est clair que c'est beaucoup de responsabilité pour un aussi jeune joueur, on a envie de dire.
De caisse quand même, c'est un super joueur.
Ouais,
Pjanic,
à la rigueur, on pourrait dire pourquoi pas. Mais s'il joue le mercredi à 100% en Ligue des Champions, qui on met le week-end en Ligue 1? Maintenant que le championnat se nivelle, c'est-à-dire que c'est plus le Lyon de 2003-2004. Marseille est pour l'instant un cran en dessous, Bordeaux aussi. Les petits jouent leur chance pleinement, donc ça va être difficile tous les week-ends pour ces clubs-là.
Et puis, la
question de la profondeur de banc se pose aussi à Lyon.
Non, et puis, et c'est un problème économique tout simplement, parce que regarde, on parlait des départs de Bodmer, de Boumsong, de Gauvou, mais pour combien ils sont partis ces joueurs-là? Bon, t'as Bodmer qui part pour un peu moins de 5 millions, 3 millions et demi, je crois. Voilà, 3 millions et demi.
Boumsong, c'est pas
avec ça. Gauvou, il part pour rien. Enfin, c'est pas
avec ça.
Mais c'est une question de salaire, c'est une question de masse salariale. C'est pareil dans tous les clubs.
Non, mais je veux dire, même au niveau du budget des transferts, je veux dire, le puits, enfin, c'est pas inépuisable. Tu vois, l'argent, il va pas tomber du ciel tous les ans.
Non, en revanche, Jean-Michel Aulas avait annoncé dès le mois de mai entre 20 et 25 millions d'euros disponibles pour les transferts pour l'OL. Il a dit qu'il n'irait pas au-dessus. Il y a eu une question un petit peu poker menteur sur Johan Gourcuff ou pas, quel prix, pourquoi pas. Pour l'instant, ils ont pris un joueur.
Oui, mais parce que Puel a pas voulu griller justement le joker qu'il avait.
Oui, le problème, c'est qu'à force de pas griller,
maintenant, il a plus trop le choix.
Ils recrutent
normalement. Regarde, ils font bien les
ans. Bien sûr.
Gomis, tu vois.
Lovren, le temps d'adaptation, quand même, il commence à être sacrément.
extrêmement long. S'il n'est toujours pas au niveau Stan non plus.
C'est 15 millions
Lovren, je crois. Non, 8 ou 9.
C'est 10 millions.
Non, mais attendez. Il va aussi falloir se poser la question aussi de Puel et de sa patte sur cette équipe. C'est-à-dire que c'est bien beau de regarder toujours du côté des recrues, des blessés, etc. Mais simplement, la vérité, c'est que Lyon, depuis que Puel a cette équipe, Lyon n'arrive pas à faire le jeu, n'arrive pas à développer quoi que ce soit. Donc si tu veux, ils arrivent à gagner sur des coups, sur du talent individuel quand il est présent. Lissandro est absent, donc tu vois, ça enlève pas mal de talent. Ouais. Tu peux pas te passer du meilleur joueur de la saison sans qu'il y ait des conséquences. Sauf si ton jeu est parfaitement huilé. C'est pas le cas de Lyon. C'est pas le cas. Dès qu'ils se retrouvent contre une équipe qui est un petit peu regroupée, qui ressort bien, ils sont embêtés. Contre Monaco, c'était pas tant. Tu vois ce que je veux dire?
Sans Lloris, de toute façon, ils prennent une défaite.
Enfin, ils prennent une défaite. Là, Lloris, c'est pas une miracle. Ils prennent 3 buts.
Ils étaient champions la saison passée, les Lyonnais. Donc, avec un effectif qui a quasiment pas changé.
Comme disait Lacombe, l'année dernière, la saison passée, pas mal de gens ont dit c'est peut-être la meilleure saison de l'OL. Et comme a répondu Lacombe, il a dit une meilleure saison sans titre, ça n'existe pas. Quoi. Et je pense que là, tout est dit. Tu peux pas dire qu'ils ont fait une saison flamboyante, bien qu'ils aient fait une demi-finale de Ligue des Champions, alors qu'ils n'ont rien gagné.
Non, mais ça rejoint ce que dit Dave. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de faire des coups contre des équipes qui sortent.
Et quand
tu regardes les équipes qu'ils ont éliminées,
quand ton meilleur joueur à chaque match, c'est ton gardien, c'est qu'un truc qui va pas quand même.
Oui. Et puis quand sur les deux dernières saisons, tu fais quoi? Ils ont perdu 19 points et 17 points à domicile. Mais ça veut dire que c'est une équipe qui est impuissante quoi à un moment. Tu vois,
qui arrive pas à faire le jeu.
Qui arrive pas à faire le jeu, c'est quand même problématique pour une grande équipe.
Même cause, mêmes effets pour Bordeaux qui démarre la saison comme il l'avait terminé, alors terminé sur de longs mois en fin de saison dernière. Jean-Louis Triaud a semblé pour la première fois, moi j'ai trouvé depuis longtemps, passablement agacé avec sa déclaration au choc. J'en ai marre qu'on prenne que des tôles. Tigana fait la gueule, mais il peut rien dire parce que de toute façon il a signé, il savait pourquoi il signait. Il a pris l'effectif qu'il avait à sa disposition, il savait très bien que c'est pas ça.
Ah, il a commencé à dire c'est l'héritage. J'ai récupéré, c'est l'héritage, j'y suis pour rien, j'étais pas là avant.
Il se passe plus rien quoi. Non, les mecs, ils ont plus rien dans les chaussures.
Hier, les déclats de Tigana sont énormes. On dirait un peu, tu sais, un nouveau gouvernement, enfin, un après-élection présidentielle ou politique.
Qu'est-ce qu'il fait comme déficit?
Et là, vous vous rendez compte, là, je reçois quand même le bébé, je reçois l'héritage de ce qui s'est passé avec le gouvernement précédent. Là, ce que nous fait Tigana, c'est un peu ça.
Que tout le monde avait loué le gouvernement précédent, soit dit en passant.
Oui, alors.
Laurent Blanc.
Oui, la fin de Laurent Blanc
pas sur les 6 derniers mois quand même.
Voilà. Oui, d'accord.
Ça a été poussif. Non, mais là, ce que Tigana...
On n'a jamais mis ça sur le dos de Laurent Blanc.
Non, mais hier, ce que Jean Tigana a balancé en conférence de presse.
Entre parenthèses.
Voilà. Mais hier, ce que Jean Tigana a dit en conférence de presse, c'est ça. C'est qu'en gros, il hérite du bébé qui allait pas très bien, un peu malade de la fin de saison dernière.
Très malade.
Maintenant, il faut qu'il gère ça, tu vois.
Donc, non, mais c'est un peu avec juste Dave, avec les mêmes problèmes que l'OM. Siani et Planus, la charnière centrale, pour l'instant, ne peut pas jouer.
Sauf que Bordeaux avait beaucoup moins de ressources encore moins par rapport à Lyon ou même Marseille l'année dernière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet effectif de Bordeaux, il y a eu 10 joueurs prolongés en milieu d'année dernière. On est arrivé à la trêve où tout allait bien à Bordeaux, on marche sur tout le monde, on entre sur le terrain. Il y a juste besoin de jouer et ça va se faire tout seul. Et il s'est passé quelque chose après la défaite en finale de la Coupe de la Ligue. Laurent Blanc avait choisi de mettre les titulaires, ça s'est effondré. Ligue des Champions, ça s'est effondré. Fin de championnat, ça s'est effondré. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute une équipe et des joueurs moyens sous contrat qu'on ne peut envoyer nulle part, qui ne valent quasiment plus rien. Des joueurs qu'on a pu payer moyennement cher ou même très cher pour certains,
qui
ont des bons contrats en termes de salaire.
Tu sais ce que c'est le syndrome Chamac. Ils ont laissé partir Chamac pour que dalle. Ils se sont dit, on va pas faire la boulette deux fois. Tous les mecs qu'on a dont le contrat va se terminer, plutôt que de les laisser partir pour rien, on va les garder.
Sauf que ça, c'est le genre de raisonnement qu'on a avec des joueurs majeurs. On double le salaire à la rigueur de Alou Diarra, de Johan Gourcuff, de Chamac avant, de Cédric Carasso, voire de Michael Siani. Mais pour tous les joueurs qui passent la majorité de leur temps sur le banc, on ne propose pas 3 ans de prolongation de contrat.
T'as des titulaires qui n'ont aucune concurrence aussi. Enfin, Bordeaux, Chalmé par exemple. Trémolinas, ils n'ont aucune concurrence, il n'y a rien qui les pousse.
Il y a 6 mois, on les voulait titulaires en équipe de France.
Oui, mais à part qu'ils sont dans le confort depuis 2 ans et demi et qu'il n'y a pas un type derrière qui tape à la porte pour leur prendre leur place.
Donc, grave. Oui, mais alors ça, tu vois, pour le coup, je pense que ce serait de l'argent gaspillé parce que vu qu'ils ne jouent pas de compétition européenne cette année, qu'est-ce que tu veux doubler les postes?
Non, mais c'est l'année dernière qu'il fallait le faire.
L'année dernière, ça allait bien jusqu'à la fin de saison.
Quand t'es Bordeaux, t'es quand même un grand club du championnat de France. T'as gagné le titre il y a 2 ans, donc t'es revenu sur le devant de la scène. Certes, a eu une fin de championnat difficile l'année dernière et tellement qu'à gagner avec des champions. Mais quand tu perds Chamac, pour les raisons qu'on connaît, et que tu ne peux le remplacer sans lui faire offense que par Anthony Modeste, et on va lui laisser le temps, il va peut-être tout exploser cette année, on lui souhaite, mais quand tu ne peux dépenser que 3 millions d'euros pour remplacer ton buteur vedette et que t'es Bordeaux, La question Lorient a presque plus d'argent pour acheter un joueur que Bordeaux, quoi.
Mais non, c'est la même chose pour tout le football français.
Non, mais d'accord, mais.
Caen a mis 3 millions d'euros sur Marc, quand même.
Ouais, sauf que la différence, tu vois, c'est que, mine de, même si Marseille perd son meilleur buteur à. Enfin, pour moi, si tu veux, c'est aussi débile de perdre Chamac pour zéro que de perdre Niang en plein milieu. Enfin, après deux journées de championnat. Ouais. Non, mais voilà, c'est même pas la veille. C'est-à-dire, ouais, voilà, tu le laisses partir après une journée. Bon, mais au final, t'encaisses quand même 10 millions d'euros, tu vois.
Et le gros problème à Bordeaux, en plus, c'est qu'il n'y aura pas de pression derrière.
Justement, la différence entre Bordeaux et Marseille, c'est aussi la dynamique qui est complètement différent. C'est-à-dire que Marseille débute sa saison, c'est un énorme coup d'arrêt par rapport à la fin de saison euphorique de l'année dernière. En revanche, pour Bordeaux, ça continue à pas décoller. Bordeaux, ça, c'est plus grave.
C'est ça qui est très embêtant. C'est que Bordeaux est dans la continuité. Et surtout, quand tu les regardes, tu ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
On a l'impression qu'il n'y a plus de vie.
Il n'y a plus de vie, il y a une absence de vitesse terrible. C'est une équipe qui joue à un train de sénateur. Gourcuff est complètement paumé.
Ils font plus mal, déjà.
Oui, c'est ça.
Ils font plus mal.
Non, mais la solidarité.
Je pense que ce que disait Nathan est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la trêve l'an dernier dans un fauteuil. Alors que, en y regardant bien, la qualité de jeu avait déjà un peu diminué.
Depuis deux mois, depuis
octobre-novembre, déjà ça jouait plus.
Mais ils continuaient à gagner les matchs.
C'est ça.
Et ils ne se sont pas inquiétés. Ils se sont endormis tout seuls.
Ouais, mais quand tu gagnes, c'est normal. Je reviens un peu à l'OM, je fais une petite parenthèse. C'est pareil, ils ont gagné le titre. Il y a eu l'euphorie, tout le monde sur le vieux port, tatati tatata. Ils sont tous partis en vacances. Deschamps a dit on verra le mercato une fois que je serai rentré de vacances. Tout le monde s'est laissé un peu vivre. On dit oh, c'est l'OM, il y a le monde, il y a la Ligue des Champions, il y a le pognon. On va attirer des joueurs sans problème.
Mais il n'y a pas de pognon.
Et non, le problème il est là, c'est que tu peux pas aujourd'hui dans le football moderne, tu peux pas perdre de temps.
Après il y a Nico qui va t'en parler, des mecs de Porto qui vont en Amérique du Sud.
Vous avez pas encore glissé Benfica, il est 20h34 hein, depuis
Benfica hier qui a perdu 2-1 contre l'Académica.
Bien joué. Heureusement que je vous donne le temps la perche.
Non mais voilà, enfin ce qui se passe à Benfica, c'est un peu ce qui se passe à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Enfin bref, les gens auront compris. Non mais juste ce que j'allais dire, c'est que enfin ça fait que deux journées quand même, tu vois. L'année dernière au Serre, ils étaient pas tip top non plus.
3 défaites les 3 premiers matchs.
Voilà, tu vois, et au final ils vont jouer la Ligue des Champions là demain.
Lille pareil.
Voilà, alors après, oui. Et tu sais comment est le championnat de France. Le championnat de France, le champion, il finit avec 15 défaites à la fin de la saison. Enfin, tu vois, je caricature, mais c'est un peu ça.
Alors
tu
qu'Arsène Wenger, à sa grande époque, disait que pour être champion, c'est 6 défaites maximum.
Voilà, bah tu vois. Oui, non, mais tu vois, Benfica, ils sont champions l'année dernière, tu vois, je l'ai placé. Et ils ont pas autant de défaites qu'un champion de France. Bon, mais bref, ceci dit, après, tu vois, effectivement, les choses vont pas très bien à Bordeaux. Il y a un nouvel entraîneur. Je sais pas si quand tu regardes le classement, tu vois les équipes qui sont en bas de classement là aujourd'hui. La plupart, ils ont changé d'entraîneur ou alors t'as des départs majeurs au niveau des joueurs. Là-haut, les équipes qui sont en haut du classement, c'est des équipes qui jouent la continuité, que ce soit au niveau des entraîneurs et au niveau de l'effectif. Et t'as le Paris Saint-Germain, t'as des équipes qui vont très bien. Toulouse, c'est pareil. Casanova est toujours en place.
Je suis d'accord.
Personne n'est parti, personne n'est arrivé.
Tu peux dire que ça, c'est une équipe qui va jouer le titre? Moi, je te dis non.
Mais moi, je te dis pas qu'ils vont faire. Mais qui te dit qu'eux, ils veulent jouer le titre? Moi, je te dis, moi, je pense pas que ce soit l'objectif.
C'est quand même inquiétant.
L'année dernière, le but de Bordeaux, c'était de s'installer.
Je suis d'accord.
Sur le podium régulièrement.
C'est quand même inquiétant qu'un champion en 2009 qui a mené le championnat tambour battant.
Tu crois que Toulouse, ils vont jouer le titre et pour l'instant, ils sont leaders, sincèrement?
Non, je te parle pas de ça.
Ils ont encore joué à l'Avignon à domicile pour avoir 9 points en 9.
Non, mais c'est bien, mais ça fait 3 journées.
Je suis en train de refaire le pédigré. C'est-à-dire,
on est d'accord, mais t'as plein d'équipes qui sont pas.
C'est comme si Marseille dans un an disait non, on joue pas le titre,
alors tu viens juste de le gagner il y a moins de 2 ans.
Mais très bien, ça fait 2 journées, Bordeaux ils sont pas dans le coup, mais t'as Toulouse qui est en plein dedans. Ça se trouve Toulouse va jouer le maintien à la fin de la saison et Bordeaux jouera le titre, on sait pas.
Eh bien tiens, justement, je vous propose qu'on parle un peu des bonnes nouvelles aussi, parce qu'on a fait beaucoup de critiques sur les clubs qui étaient dans le trou. Parlons un peu des équipes qui marchent, Caen et le Paris Saint-Germain par exemple. Ce sera juste après la pub.
On refait le match sur RTL
avec Eric Silvestro.
On refait le match jusqu'à 21h, comme tous les jours et comme tous les lundis. La bande avec Dave Apadou, SoFoot, France Foot, Nicolas Villas de ma chaîne Sport, Nathan Francky de l'équipe TV et Cyprien Sini de la maison, pour avoir quand même nos repères. On a besoin de s'appuyer sur
une canne. Je suis là pour vous aider,
Cyprien Sini.
Je suis votre béquille.
Plutôt latéral, Cyprien Sini.
Ah oui?
Ah, il cavale.
Ouais. Ouais.
Technique aléatoire, mais il cavale.
Un quart d'heure.
Non, c'est pas vrai.
Un centre,
il est très bon. Et puis alors, lui, je peux vous dire, il mouille le maillot pour les autres. Voilà, ah, ça, c'est déjà une qualité. Non, mais très bon, Cyprien Sini. Bon, parlons des équipes qui marchent. Tiens, on va faire une petite parenthèse, 2-3 minutes, parce qu'à mon avis, on n'en parlera quand même pas très souvent pendant l'année dans On refait le match. De cette équipe cannaise qui vient de se. Qui est en tête du championnat.
Attends, il n'est pas exclu qu'on en reparle. Hein.
Comme Montpellier.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais il y a 2 ans, quand ils étaient montés en.
Leur première année en Ligue 1, ils font 4ème à la trêve.
Voilà, ils font 4ème à la trêve.
Mais ils font quoi à la fin?
11ème.
ce qui était honnête. Non mais je veux dire, non mais après faut voilà, 11e pour un promu, 4e à la 19e journée, si tu veux, c'est quand même pas mal. Après effectivement, ils descendent. Mais justement, ils sont descendus récemment, ils sont remontés, c'est pas une équipe comme Arles, c'est inédit pour eux la Ligue 1. Brest, ça faisait quasi 20 ans qu'ils avaient pas touché l'élite. C'est un promu pas tout à fait comme
les autres. Ils sont en train de nous faire une Grenoble, il y a de la première année de Grenoble en Ligue 1 qui était très bien partie aussi. Si. Mais ce qui est terrible, c'est que ils battent les deux meilleurs. Non mais ils battent l'OM et Lyon.
Le Grenoble, quand même, d'il y a deux ans, c'est un Grenoble qui avait bâti son maintien sur deux mois de compétition, avait gagné des matchs sur des miracles, des coups d'éclat.
À la dernière
Il n'y avait pas une équipe qui avait été bâtie un petit peu à la Football Manager, joueur libre.
C'était mars-avril, là, ils avaient fait.
Mais fin octobre, Grenoble, c'était déjà terminé.
Ah, mais ils avaient 20 points.
Quand il y a du jeu, quand même.
Non, et puis c'est récurrent, c'est des habitudes.
Il y en a toujours eu.
Non, mais c'est des traditions. Tu vois, quand fait partie de ces équipes, c'était un peu comme Metz il y a encore quelques temps. Tu vois, ils montaient, ils restaient un ou deux ans, puis ils redescendaient. Ils étaient le cul un peu entre deux chaises, entre les deux divisions, si tu veux, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et là, peut-être, alors qu'ils vont rester, mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand fait partie de ces équipes qui jouent la continuité. L'entraîneur est le même depuis des années, Franck Dumas. Les joueurs sont les mêmes que l'année dernière, qui avaient bien réussi en Ligue 2. Et là, ils n'ont pas perdu des joueurs trop importants au mercato. Ils n'ont pas forcément recruté, mais ils essayent de continuer avec un excellent centre de formation. En plus, c'est une vraie région de football. C'est un vrai club de foot, un beau stade. Enfin, tu vois, il y a tout
NDI,
ça.
NDI et l'Arabie, tous ceux qui ont marqué. Par exemple.
Non, mais avec une unité de pensée. Avec une unité de pensée, tu parlais de style de jeu. C'est-à-dire que voilà, Franck Dumas, ça fait combien? Ça fait 6 ans qu'il y est, je crois. Si tu veux, il a imprimé une patte. Il y a une tradition, de toute façon, à Caen, on le sait.
Un beau petit stade, un beau stade.
Un beau centre de formation aussi, tu vois, qui date d'il y a quoi, 4 ans. Donc, si tu veux, il y a plein d'atouts. Ils ont un public qui est vachement fier. Ils étaient à combien? 13 000 de moyenne en Ligue 2.
Ouais, là, ils étaient plein, 22.
C'est ça, mais c'était le deuxième derrière Nantes. Si tu veux, ça fait quand même beaucoup d'atouts pour un promu qui n'en est pas tout à fait un. Quand même.
Ce qu'il faut dire quand même sur Franck Dumas, c'est qu'il y a deux ans, justement, il était venu à l'équipe TV, il avait dit quelque chose, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Il disait, il n'y a pas de bons entraîneurs, il n'y a que des bonnes équipes. Et en fait, qu'on voit Mourinho, qu'on voit les grands entraîneurs, on sait qu'un un très grand entraîneur peut faire gagner une équipe moyenne. Mais lui prouve aussi qu'avec une équipe, avec des jeunes ou quoi que ce soit, un entraîneur peut faire la différence.
Pourquoi il dit ça ?
Et il fait bien jouer
son équipe. Parce que justement, c'est un bon entraîneur. Parce qu'un bon entraîneur se met jamais lui-même en avant.
Attention, il est manager. Bah, si vous l'appelez Franck Dumas, entraîneur du stade Malherbe de Caen, je peux dire, il vous met une droite directe.
Sur ma chaîne sport, ça m'est arrivé, j'ai dit coach, il me dit non, m'appelle pas entraîneur parce que j'ai avoir des problèmes avec.
Pas de diplôme.
J'ai pas de diplôme, je suis manager.
Ce qui est marrant dans cette équipe de Caen, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre la Ligue 2 toutes les semaines pour connaître le nom des joueurs. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que c'est des joueurs qui ont déjà joué la Ligue 1.
Il y a Tabaré, tout ça. C'était vu.
Enfin, en plus, en début de championnat, tous les deux Rouen, les Nivets,
en plus, ils sont blessés.
Les subs, ils sont tous blessés.
Quand tu regardes l'effectif de Caen, c'est pas inconnu. C'est un truc, voilà.
Enfin, t'en as quand même beaucoup. T'en as beaucoup qui étaient peut-être là. Il y a, tu vois, quand justement avant qu'ils redescendent parce qu'ils jouent la continuité.
Ils savent ce que c'est.
Voilà, exactement. Mais la plupart des joueurs, c'est quand même des joueurs, on va dire, des très bons joueurs de Ligue 2.
Club familial aussi, hein. C'est important au niveau de l'ambiance. Un joueur, même si c'est pas un grand joueur, un joueur comme Molo qui a besoin de temps de jeu, qui est parti de Monaco. Qui était à Lacan, il l'a choisi pour ça. Là, c'est lui qui a le plus flambé. Enfin, un de ceux qui a le plus flambé.
Il m'impressionne beaucoup.
Non, mais sur le match de Lyon, ouais. L'Arabie très fort sur les deux matchs.
Non, puis il y a aussi la conjoncture, on va dire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est jeune, qui a envie. Elle se retrouve face à des gros matchs. Donc, si tu veux, eux, ils peuvent y aller à bloc. Les gros en question sont pas prêts.
Mais les gros, faut toujours les jouer au début.
Voilà, exactement. Donc, si tu veux, mais moi, j'attends de les voir. Là, encore Montpellier, c'est encore une équipe, on va dire, assez importante. Donc, la motivation sera là, etc. Ils auront encore, on va dire, entre guillemets, rien à perdre. Moi, j'attends le match contre Brest. Et là, on saura. Parce que là, contre Brest, il faudra se faire mal. Contre Brest, a priori, ils seront favoris, ils auront une étiquette. C'est ça qu'il faudra gérer. C'est-à-dire, tu vois, un ordinaire où là, il faut assumer.
Mais ça peut prendre du côté de Caen.
Moi, j'ai même croisé au cœur de l'hiver.
J'ai même croisé des canets sur les champs avec les maillots. C'est pas tous les jours quand même.
Non, c'était le maillot du Barça, t'as confondu.
Non, c'était le maillot de Caen, je le connais bien. Je peux vous dire qu'ils avaient mal aux cheveux. À mon avis, ils ont fait la fête après les deux victoires face à Marseille et face à Lyon.
Ils ont raison.
Ils ont raison d'en profiter. Ouvrons la page Paris Saint-Germain, messieurs.
Oui. Et c'est Cyprien Sini qui
dit. Marseillais qui se délecte comme ça de l'ouverture d'une page parisienne.
Mais je vous rappelle que j'ai une carte de presse, je suis journaliste. C'est bien de le préciser. Ah, le démago.
Faites bien le numéro.
Ah, je le connais pas par cœur.
Ah, quand même. Hein.
Et surtout le PSG. Non, mais parce que
t'as accès au plus beau stade de foot.
Depuis
de France.
Que je suis ici, je suis beaucoup le PSG quand même. Donc je suis content que le PSG réussisse un petit peu.
Vous savez quoi ? Ça mérite un jingle.
Allez.
On refait le match.
Eric Silvestro sur RTL.
On va peut-être faire un jingle d'ailleurs avec votre soupir au moment du PSG, ça pourrait faire une jolie virgule pour nos émissions futures.
Je me régale des prestations de Néné. Il est très irrégulier, il faudra voir comment ça évolue avec son entraîneur aussi.
Calmons-nous.
Alors j'ai envie de vous dire pareil, ça ne fait que deux matchs.
Non mais franchement, le match qu'il fait hier, Mais extraordinaire.
Extraordinaire. Non, comme
Cyprien, souviens-toi l'été dernier.
Je sais.
Paris, trois victoires consécutives, trois buts contre Lille. Paris qui marche sur Lyon, qui s'en sort. Lyon s'en sort un partout. Un but hors jeu de Bafé-Comis. On se dit waouh, Paris, ça y est, on a trouvé.
C'est magique.
Calmons-nous. Ça a gagné contre Saint-Étienne. Ça a tenu,
bien tenu
choc à Lille, le Lille de la deuxième journée. Hein. Mieux vaut Lille, jouer Lille comme Marseille, comme Lyon à la deuxième journée qu'un petit peu plus tard. Cette attaque a été bonifiée. Néné, c'est très bien pour la touche technique, c'est très bien pour les coups de pied arrêtés parce que c'était vraiment le gros point faible parisien de l'an dernier. Remettre Cessegnon à droite, c'est très bien. Erding Waro, pas blessé, c'est très bien.
Bodmer, qui est quand même un mec qui sait transmettre un ballon,
reculons,
c'est bien.
Reculons sur le terrain parce que là, on a fait qu'une seule moitié de terrain.
Alors, on a fait le deux tiers quand même. Là.
Voilà, mais maintenant, faites derrière. Qu'est-ce qui a bougé derrière?
Rien.
Et où était le problème du PSG l'année dernière?
Derrière.
Non, il y avait deux problèmes l'année dernière. Il y avait derrière, mais il y avait aussi sur le banc. En l'occurrence,
il y avait aussi au milieu quand vous avez Clément et Makelele, il n'y en a aucun des deux qui peut donner un ballon propre devant.
En se renforçant.
Mais déjà Bodmer, ça t'apporte une assise technique.
Mais quand il est pas blessé, tu vois.
Le PSG a recruté deux joueurs de qualité, Bodmer et Néné.
Pas très cher.
Le PSG n'a pas perdu de joueurs importants, donc son banc s'est renforcé. S'en trouve de fait forcément renforcé. Donc le PSG a un banc, c'est la différence avec la saison dernière. Et le PSG n'a pas
derrière.
Le PSG n'a pas fini son marché, c'est le troisième point. Et un défenseur va venir aider Mamadou Sakho.
Ah, tu as des infos?
Non, j'ai pas d'infos, mais je sais qu'ils vont le faire.
Ah bah on est toujours sur le même, hein, c'est Biseva, de toute façon, ils attendent la dernière minute.
Il
n'y
a aucune raison que ça ne se passe pas.
Biseva.
Mais ça peut faire une très bonne doublette avec Sakho. Bon, un joueur expérimenté.
Mais qu'est-ce que Biseva,
il va apporter un peu plus d'expérience.
Alors, je vais être très méchant. Je vais être très méchant, Nathan, et c'est très facile. Il a peut-être rien de plus que Camara. Mais si Camara ou Sakho se pètent, il a peut-être un peu plus que Traoré.
Non, mais il y a un banc cette année au PSG.
Encore une fois, Biseva est un très bon joueur. Seulement, comme disait tout à l'heure Nathan, c'est pas comme si sur le terrain, t'avais déjà les meilleurs défenseurs centraux de France et qu'il te fallait un mec en supplément.
Tu veux faire venir qui comme défenseur central?
Rafik Ali, qui a joué la Coupe du Monde par exemple.
Nicolas.
Tu vois, pour 3 millions d'euros, tu le faisais signer, t'es un super défenseur.
Nicolas, quand t'as 10 millions pour recruter et que tu dois prendre 3 ou 4 mecs, que t'arrives
c'est
à attirer. Que t'arrives à attirer.
Mais tu veux qu'on en reparle?
Tu es quand même un des meilleurs joueurs du championnat.
Tu veux que j'en revienne à ça? Tu veux qu'on en reparle du recrutement des pays de seconde zone, des championnats de seconde zone? Comment ils font dans les petits pays? Aujourd'hui, tout le monde se frotte les mains parce que Lucho et Lisandro, ils sont en France. Mais combien ils ont recruté les clubs portugais, ces joueurs-là? Pourquoi est-ce qu'en France, on fait pas la même chose?
Mais
je te parle de Rafik Alich. 3 millions d'euros. Pour 3 millions d'euros, t'avais un défenseur qui va signer soit Newcastle, soit Fulham. Et personne n'en a voulu en France. T'as Saint-Etienne.
Fulham, c'est comme si
mais on en parle dans 2 ans. Sissoko, tout le monde rigolait quand Porto allait le chercher. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais quelle trouvaille ce mec? 300 000 euros, Porto l'a payé. Mais pourquoi ils font pas pareil?
Mais
je te rappelle qu'il était en France pour zéro.
Mais là, tu veux refaire tout le système de recrutement des clubs français, ce qui est très ambitieux, t'as raison, mais ça va pas se faire maintenant.
Mais Eric, pas du tout. Mais plutôt que d'aller chercher des mecs en France que tu vas payer, tu le sais, 5 millions, 7 millions d'euros parce qu'ils jouent déjà en France et c'est des joueurs confirmés, tu vas chercher des joueurs dans d'autres championnats qui sont peut-être un peu moins chers.
Okay.
Ouais, t'as même des Français là-bas d'ailleurs.
Ouais, mais à chaque fois, c'est un pari et
oui,
ça marche
pas. C'est pas un pari.
Non, mais t'as aussi des contre-exemples, t'as aussi des mauvaises surprises. Paris a pris plein de joueurs. Ils ont pris plein de joueurs en bois. On va pas ressortir le cas des Brésiliens et tout. Et finalement, on se dit pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris une valeur sûre? Si tu veux, t'as les exemples et les contre-exemples.
Dev, Nico, t'as plus d'exemples.
Mais
t'as
même
plus
dans d'exemples. Les valeurs sûres, il y a des contre-exemples.
Mais bien sûr,
t'as plus quand ils posent 10 millions d'euros sur Yepes, quand ils posent 10 millions d'euros sur Rotten, quand ils posent 10 millions d'euros sur Bonaventure.
Ah non, mais attends, que par le passé, ils aient super mal géré. Je te l'accorde.
Yepes, c'est au Milan FC aujourd'hui.
Ouais,
ouais,
bah,
ouais,
ça calme,
ouais,
ça, ouais.
Enfin, c'est pas, désolé, mais c'est mais pas une référence.
T'as vu par où il est passé entre temps.
C'est Nathan qui le dit. Il prend la place de Favali, qui avait 35 ans, qui a joué défenseur central un an dans sa carrière. Donc
non, mais c'est génial que Yepes signe au Milan AC quand même.
Le Milan AC a quelques soucis quand même aussi.
Non, mais t'as plus d'exemples de joueurs qui ont été recrutés en France et qui n'ont pas réussi plutôt que l'inverse. C'est aujourd'hui Paris. Ils font pas de paris justement. Non. C'est ça le gros problème. C'est qu'ils préfèrent. Ils se disent. Bah, on veut plus louper.
Tu veux plus quand tu sors de 4 saisons pourries faire des paris. Tu dois.
Je vais te dire l'inverse. Ça fait 4 saisons pourries que tu fais à Paris et tu recrutes qu'en France et tu te rends compte que ton recrutement il est pourri.
Non,
pourquoi?
Ta sauce
à Everton. Même tes paris français. Est-ce que Jallet quand tu le prends, tu sais qu'il va faire la saison qu'il fait?
Est-ce que
est-ce que Waro meilleur buteur de Ligue 2,
tu savais pas qu'il peut remplacer Paoletta?
Si ça va pas devenir un Dagui Bakary, tu sais pas?
D'accord.
Bon, voilà.
Donc il
voilà.
y a une notion de pari quand
donc,
même.
Donc,
tu vois,
donc
ce que
ils ont
Dagui
été obligés.
Bakary, ouais. Là, pour, elle pourrait s'amuser à faire un petit brainstorming sur les noms d'attaquants.
Moi, je vais dire
Erding,
à mon sens, c'est un bon recrutement. Waro, c'est un bon recrutement. J'allais aussi, même c'est Seyon d'ailleurs. Il n'y a pas eu que des joueurs qui ont été foireux.
Pas mal.
Et d'ailleurs,
c'est quand même pour Paris.
Et je vais même me contrer moi-même. Je vais dire que, par exemple, le transfert d'Everton et de Sauze qui était venu, les deux Brésiliens, pour 8 millions d'euros.
Alors,
ceci dit, tu vois, Sauze, on lui a pas laissé sa chance. Aujourd'hui, c'est un cadeau avec le Grêmio.
Ouais, mais attends.
Nilmar
aussi, alors dans ces cas-là. Tu nous fais une Cristiano Ronaldo, tu te fais un dribble à toi-même et tu marches sur le ballon.
Mais attends,
quoi.
Mais Nilmar, tu sais ce qu'il fait, Nilmar? Attends, il était en Coupe du Monde, il a gagné la Libertadores avec
Nilmar. Je suis d'accord. Lyon a sans doute pas été patient. Enfin, tu peux pas dire.
Luis Fabiano à Rennes aussi, alors.
Sosa, c'est un vrai joueur.
Il flambe avec Grêmio, tout le monde flambe dans le championnat brésilien. Mais Ronaldo et ses 350 kilos, il marque des buts.
Il a fait 3 mois à Paris.
Même moi, je marque des buts dans le championnat brésilien.
La semaine dernière, t'as fait un très bon.
Exactement.
Non mais Sosa, il a fait 3 mois à Paris. Il a fait 3 mois. Qu'est-ce que
d'accord.
Mais tu l'as même pas.
D'accord.
Tu l'as jamais vu jouer.
Mais même à Marseille, tous les joueurs, les Marcelinho et tout ça. Ouais. Voilà, ça c'est des joueurs à qui on n'a pas du tout.
Marcelinho, c'est devenu un
joueur qui réussissent ailleurs.
Allez, respire un bon coup. Mais
non,
c'est
tu m'énerves.
On a encore 10 minutes. Là, c'est le money time, c'est important.
T'en vas pas, Nicolas. T'en vas pas.
Eric Silvestro. On refait le match sur RTL.
20h50 à l'écoute d'RTL, première radio de France. On refait le match comme tous les lundis et les débats enflammés avec Dave Apadou, sauf foot France Foot, avec Nicolas Villas qui tousse tellement il a plus de salive à force de parler, de ma chaîne sport, Cyprien Sini d'RTL et Nathan Francky de l'équipe TV. Il nous reste 10 minutes, on a encore pas mal de dossiers à évoquer. Je voudrais qu'on parle des pelouses synthétiques quand même. Parce que la première en France, des pelouses synthétiques, on attendait ça avec curiosité, pas impatience, mais curiosité.
Mais comme Correa, quoi. C'est pelouse de merde, quoi.
Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il a dit peut-être que sur une pelouse, on aurait gagné le match.
D'accord.
Alors, Nancy a perdu 3-0 contre Rennes.
J'en connais pas un qui est content de jouer là-dessus.
En étant à 10 très vite. Et Lorient a perdu contre Nice 2-1. À la limite, comme il vaut mieux jouer les gros en début de championnat, vaut mieux jouer les équipes qui seront équipées de synthétique en début de saison parce qu'elles n'ont plus, ne sont pas habituées.
Je suis d'accord. Voilà. Enfin, si tu veux, ça m'a fait penser à un truc. Je regardais un peu les matchs dessus.
C'est beau quand tu regardes.
C'est beau de loin quand personne joue dessus.
T'as l'impression que les lignes blanches sont fluo.
Non, mais dès qu'on joue dessus, t'as l'impression de voir des matchs d'avant-saison, tu sais, aux États-Unis là. Tu sais ça joue pépère, ça joue tranquille, etc.
Sauf que même aux États-Unis, ils sont revenus à l'herbe.
Et même aux États-Unis, ils sont revenus au gazon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es obligé de défendre debout. Tu t'as pas d'engagement physique. C'est quand même embêtant.
Non, c'est terrible. Pour qui joue au foot, sur herbe ou sur gazon.
Ah, mais ce qui est dommage,
tu vois,
sur gazon
ou sur synthétique,
c'est
quoi,
vraiment pour un défenseur, un tacle, on va se brûler. Les gardiens, les appuis, mais tous les joueurs sont contre. C'est-à-dire que après. Que économiquement ce soit un investissement, qu'une pelouse qui coûte 1 million d'euros dure 4 ans au lieu d'une pelouse en gazon qui coûterait 300 000 euros 2 ou 3 fois par an, je veux bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on prend rendez-vous pour le mois de mai, on regardera le bilan à domicile de Nancy et de Lorient, et là on verra le nombre de points perdus. Par rapport à Nancy,
la pelouse, c'est la même pour les deux équipes.
Oui, non, mais c'est pour ça. Oui. Non, mais c'est ça.
C'est deux équipes.
On regardera les deux pays, les deux équipes aux pelouses synthétiques, combien elles auront perdu de points sur leur pelouse. Pour Nancy, ce sera peut-être pas significatif, étant donné qu'ils ont pris l'année dernière plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Mais pour
ça
Lorient,
commence pareil, ils ont gagné à Lens, ils ont perdu à domicile.
Pour Lorient, ce sera peut-être plus un indicateur.
Mais Lorient, Christian Gourcuff est pour. Il dit jeu technique, jeu plus rapide. Tout
non,
ce
mais
que
attends,
vous
tu vois le problème là, tu.
Et parce que Gourcuff, c'est un adepte du Milan AC, c'est-à-dire que pour lui, le Milan Anzaki, ça défendait debout et tout. Il va te l'expliquer en long en large. C'est-à-dire qu'il déteste les tacleurs, par exemple. Pour lui, c'est pas qu'il interdit le tacle, mais pas loin. Celui qui fait un tacle, il se prend
vraiment. Tu vois, là, tu vois, avec cette question de pelouse synthétique, c'est-à-dire en France, on a regardé ce qui se faisait dans les autres pays, notamment en Allemagne. En Allemagne, t'as des stades, ils sont bons à tout faire. Les mecs, la pelouse à la fin du match, ils l'enlèvent. Tu vois, t'as un espèce de grand tiroir énorme qui fait la taille du stade. Et après, on la met à part, on la gère. C'est des pelouses, c'est pas du vrai synthétique, c'est de l'herbe artificielle, si tu veux. Mais ça reste de l'herbe. En France, tu vois, c'est comme en 98 quand il y a eu la Coupe du Monde. On avait une grosse enveloppe budgétaire pour refaire les stades. Au lieu de refaire les stades, on a rénové. Bah là, c'est la même. On s'est dit, tiens, si on faisait comme en Allemagne, ah, mais ça coûte un peu cher. Bah, du coup, on va faire ça, mais en moins bien. Bah, c'est ce qui se passe. C'est ça. Et tu vois, ce qui est un peu flippant, c'est que t'as un euro qui va être organisé en France. Plutôt que se dire, on va peut-être attendre un peu et profiter de ça pour refaire toutes les pelouses et tester des nouveaux trucs. Non, non, bah, on va faire du synthétique.
En fait, c'était sur la Côte d'Azur qu'il fallait l'installer, cette pelouse. Comme ça, Monaco-Montpellier aurait eu lieu. Non, mais attendez, un 15 août, un match annulé sur la Côte d'Azur.
Pour l'euro, Lorient, a priori, ne prendra pas l'euro au stade du Moustoir. Donc
non, on est d'accord.
Ils n'allaient rien faire. Et Nancy, je ne sais pas s'ils comptent le prendre. Mais en tout cas, s'ils le prennent, il faudra revenir à une pelouse gazon.
Puisque ce oui, mais c'est 2016. Attendez,
après, ce qui est sûr, c'est que quand on écoute les déclarations des Lorientais, les Gamero, les Amalfitano, tout ça, qui disent moi, j'aime pas ça, il faut se rappeler de ce que ces mêmes joueurs disaient sur la pelouse du Moustoir l'année dernière.
Qui était pourri.
Ils disaient, mais de toute façon, jouer là-dessus, voilà, bah, nous, on préfère jouer à l'extérieur qu'à la maison.
Le choix, c'est pas entre un. Oui,
tu te débrouilles pour faire un bon
si sur la même pelouse. Si sur la même pelouse en ouverture du championnat, tu mets 4-0 à l'OL. Peut-être que les discours, c'est vrai que c'est différent.
Je pense qu'on va pas se faire beaucoup. Je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais en même temps, voilà, c'est Nancy et Lorient, et je pense que ça fera pas beaucoup de bébés en France. Voilà.
Tu vois, les pelouses synthétiques ont gagné 3-0, lui.
Oui, mais en plus,
il aimait pas non plus. Il y a eu la grosse
blessure de Fabien Lemoine qui a vraiment rien à voir avec la pelouse synthétique. On le précise quand même, c'est un choc avec Rénal Lemaître. Il est très touché au rein. C'est des nouvelles
synthétiques, mais il a beaucoup à voir avec le genou.
Non, mais si tu veux le foot, c'est un sport d'éléments extérieurs. Si tu veux, c'est comme le rugby. Donc si tu veux, on peut pas commencer à mettre des toits foot du truc synthétique. C'est un sport qui joue sur herbe, qui joue à l'extérieur. Voilà, il y a les éléments extérieurs. Point barre, quoi.
RTL.
On refait le match. Éric Silvestro.
Merci pour la transition. Parfois, il y a la neige, notamment en Russie, mais là, il n'y en aura pas demain pour le Zénith Saint-Pétersbourg face à la JO. Ça, c'est un métier, les transitions. C'est comme ça, ça se travaille. Vous savez, des années d'entraînement. Merci, Dave, d'avoir été là. Parce que
je croyais que c'était pas préparé, mais c'était rodé depuis des heures.
On a travaillé ça tout à l'heure au café et tout.
Bon, les gars, c'est fini là. Plaisir là, vous deux.
Il nous reste 5 minutes, donc on va aller vite. Auxerre. Demain, tour préliminaire de Ligue des Champions, match aller Zénith Saint-Pétersbourg, 18h30 à suivre en fil rouge, bien sûr, sur RTL. Alors, à écouter les Auxerrois, ils n'ont aucune chance. Au moins, c'est réglé.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent, Auxerre ?
C'est l'école Giroud, c'est une tradition maison. Ils jouent le maintien, ils n'ont aucune chance contre le Zénith, etc.
Mais évidemment,
ils vont leur rentrer dedans.
Ils nous prennent pour des jambons.
Mais évidemment.
Mais non, mais même s'ils se prennent 4-0, match aller, on vous l'avait dit, c'était un gros morceau.
Ceci dit, ils sont pas favoris.
Évidemment qu'ils ne sont pas favoris.
Aucune chance.
Bah, évidemment. Enfin, ils arrivent, ils sont en début de saison, ils vont attaquer une équipe qui est en plein milieu de championnat.
Qui est leader.
Qui a l'habitude de la Coupe d'Europe.
C'est vrai qu'au coup d'envoi de l'année dernière, tout le monde se disait au cerf sur le podium, ils ont énormément de chance.
Et puis alors, eux, pour le coup,
ils n'ont aucune chance.
Non, mais à part que là, c'est maintenant tout de suite, c'est pas sur une saison qui dure 6 mois.
Avec une équipe qui n'a pas de soucis de recrutement. Ils viennent de recruter Bruno Alves pour 22,5 millions d'euros, tu vois. Enfin, 22 millions d'euros.
De Porto.
Voilà.
T'as raté une occasion.
Je suis obligé de dire Benfica aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pour ça. Non, mais ils ont une vraie bonne équipe.
Et Spalletti, l'ancien entraîneur de la Roma sur le banc, c'est vrai que c'est quand même du costaud.
C'est ça, et Zénith, bon, on sait que c'est.
Non, mais il faut être un peu ambitieux quand même, ils le sont bien
réaliste,
sûr.
Il faut être réaliste. Voilà, après s'il passe, c'est génial, c'est une super exploit.
Ils ont une chance infime, c'est la glorieuse incertitude du sport.
On parle quand même du championnat de France qui est dans le Big Four quand même des championnats européens. Ils se tapent une équipe
Big Five,
qui est dans le Big Five du championnat européen et ils se tapent une équipe russe. Et là, tout le monde est en train de se dire, enfin, ils sont quand même qualifiés en Ligue des Champions. La GIA, tout le monde se dit, ouais, mais attends, ils sont quand même pas favoris, puis ils vont perdre, et puis c'est normal. Non, mais tu te rends compte à quoi ça ressemble?
Mais attends, mais t'as vu l'équipe russe, la tête qui est là?
Non, mais il y a un truc.
Non, mais je te dis pas, mais rappelez-vous.
T'imagines le Barça dire ça avant de jouer face au Zénith?
Rappelez-vous le Lille.
Du Barça,
c'est que mis à part Lyon et aller
même Lyon c'est fini maintenant.
Non mais c'est pas
le
ça.
Le cycle est terminé, je te l'annonce.
Si tu mets Lyon qui fait ses campagnes européennes, bon Marseille qui est qualifié régulièrement, si tu veux derrière ça, quand tu te tapes un monstre,
c'est bien ça le problème.
Russe.
Oui, mais c'est dire t'es
en dessous.
Mais là, le truc, c'est bien
même
quand économiquement,
mais peu importe. Mais rappelez-vous le Lille de Lille qui sort par mon tour préliminaire de la Ligue des Champions. Personne n'y croyait aussi.
La différence, c'est que les Italiens, en tour préliminaire, ils ont même pas encore repris.
Ils ont pas repris championnat, c'est vrai. Et moi, ils ont qu'à penser aux Young Boys de Berne qui sont allés taper Fenerbahçe au tour préliminaire précédent.
Mais c'est des one shot, ça, Eric.
Eh ben, c'est un one shot qu'on leur demande à Auxerre.
Tu construis pas un championnat. Attends, après tu vois, on pleure parce que
match retour.
Bah Fenerbahçe, c'était pareil. Les Young Boys, c'était match retour.
Après, tu pleures parce que ton championnat, t'as les grands clubs comme ça qui perdent leurs deux premières journées. Mais c'est normal. Attends, enfin là, tu donnes comme exemple. Prenez l'exemple d'une équipe qui une fois a gagné.
Eh ben, mais on leur demande une fois de faire un exploit. Pourquoi pas?
Si tu veux des clubs structurés, il faut que ce soit dans la continuité. La GIA, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Soit tu joues le jeu jusqu'au bout, soit et après tu pleures pas en disant ouais, mais la seule recrue que j'ai eue, c'est Anthony Le Tallec. Bah écoute,
il pleure pas trop. Il voudrait au Braniac en plus, ils l'ont pas eu. C'est comme ça. Il nous reste deux minutes. On évoque l'équipe de France demain. La commission de discipline pour Evra, Abidal, Toulalan. Il devrait être là. Ribéry ne sera pas libéré par le Bayern. Nicolas Anelka sans doute ne fera pas le déplacement. À quoi on peut s'attendre demain devant cette commission de discipline?
À rien.
Est-ce que Raymond Domenech va y aller?
Ne serait-ce que cette pseudo-audition qu'il devait y avoir de Domenech et d'Escalette juste avant le départ en vacances. Ils ont demandé la veille de l'audition à faire un huis clos encore. On ne saura rien. Il faut ménager Ribéry parce que c'est le plus talentueux, le plus important, tout ça.
Non, et puis c'est
ça
ne
sert à rien.
Moi, je suis pas d'accord.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire Nicolas Anelka ne sera plus jamais appelé en équipe de France, mais il veut plus venir en équipe de France. Donc ils vont prendre des pseudo-sanctions.
Non, moi je pense qu'il va y en avoir. Je pense qu'il va y en avoir.
À la limite, Evra.
Il va y avoir Evra, des deux mois.
Evra, il peut faire office de fusil.
Evra, il est blessé.
Non, mais du 6 mois. Il va prendre du 2-3 6 mois.
Ils vont déguiser ça un peu. Mais il va y avoir quelque chose.
On veut se croire à l'école, le proviseur qui convoque les élèves.
En
même temps, il se comporte comme des gamins.
Non, attendez, au moment où on voyait le bus de la honte à la télé ou sur place pour ceux qui y étaient.
Mais Domenech, ça fait 2 ans qu'il se fout de la gueule de tout le monde.
Il faut quelque chose, il faut une réaction. Maintenant qu'il y a une réaction ou une sanction qui va peut-être être prise, tout le monde dit on s'en fout.
Ils sont convoqués en tout cas. Demain. La commission de discipline, on en reparlera demain soir dans On refait le match, bien sûr, entre 20h et 21h. Merci à Dave Apadou de SoFoot, France Foot, à Nicolas Villas de ma chaîne Sport, à Cyprien Sini d'RTL et à Nathan Francky de l'équipe TV. Rendez-vous lundi prochain avec le retour du maître Gene Sacomano pour On refait le match. Je vous retrouve demain à 20h pour évoquer le tour préliminaire, notamment de la Ligue des Champions. Très bonne fin de soirée à tous.